15h, 16h,
son rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours de 15h à 16h, on essaye de vous faire du bien, en tout cas au moins de vous éclairer, de vous rassurer aussi sur tous les petits et gros bobos qui peuvent nous tomber dessus un jour ou l'autre. Et pour ça, dans Sans Rendez-vous, on a une arme secrète, un docteur qui vous veut du bien, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Vous avez vu comme je vous ai bien décrit
c'est incroyable.
Allez, on passe au programme du jour. Aujourd'hui, dans notre grand dossier, on a décidé de dire non à la pression. On a décidé d'attaquer 2020 dans la sérénité. Donc avec notre invité Audrey Hakoun, spécialiste en psychologie positive, on va vous donner les clés pour y arriver, des astuces pour en finir avec la pression, que ce soit au boulot ou même à la maison, en couple. On va lâcher du lest, se libérer. Vous allez voir, c'est pas si grave de ne pas être tout le temps parfait. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la grippe. Ça y est, on observe les premiers cas en France. Alors comment réagir si vous en êtes victime? Comment peut-on se soigner à la maison? Et faut-il toujours consulter? Ensuite, dans notre chronique Les bobos du quotidien, on va parler de l'intérêt ou pas des jus de fruits. Sont-ils une alternative aux fruits entiers? Nous font-ils du bien? Ou alors sont-ils uniquement des bombes à sucre? On fera le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des problèmes d'éjaculation, qu'elles soient trop précoces ou même trop tardives. Y a-t-il des moyens de corriger, de traiter ça? Catherine nous répondra.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Frédéric.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, ma grand-mère m'a toujours dit qu'il fallait consommer plus d'ail l'hiver parce que voilà, ça réchaufferait un peu plus le corps. Donc voilà, je voulais savoir si c'était vrai ou si c'était faux. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
Alors Jimmy, en cette période de virus, je crois que vous voyez beaucoup de choses en ce moment, des grippes, des gastro, des rhinos. Là, ce matin, vous en avez vu à gogo, vous m'avez dit. Donc la grippe, notamment, elle fait ses premiers dégâts, la gastro aussi. Est-ce que ce qu'on met dans son assiette, finalement, comme l'ail, qui est suggéré dans la question, est-ce que ça peut avoir un effet protecteur?
Alors évidemment que ce qu'on mange a un impact sur notre santé, sur notre bien-être et parfois même sur notre humeur. Et donc, pour avoir des défenses immunitaires, on va dire, de meilleure qualité, il est possible, au travers de l'alimentation, de faire quelques petits ajustements. Alors évidemment qu'on ne va pas vous dire de manger de l'ail matin, midi et soir et que ça vous permettra de ne jamais tomber malade, mais on sait depuis l'Antiquité que l'ail a des vertus et des propriétés qui pourraient nous aider à combattre notamment certaines infections.
Alors justement, l'ail, ça contient quoi dans cet aliment? Il y a quoi dans cet aliment qui pourrait nous faire du bien finalement?
C'est un aliment qui est très riche en minéraux. Il contient du potassium, du soufre, du phosphore, du calcium, du magnésium. Tout ça, c'est très utile notamment aux os, au système cardiovasculaire et au système digestif. Mmh. Et puis, autre atout, c'est très faiblement calorique. Une gousse d'ail, c'est simplement 4 calories, 3 grammes.
D'ailleurs, donc, vous nourrissez exclusivement d'ail.
D'où cette haleine extraordinaire que vous me reprochez à chaque fois. Et puis en plus, ça contient des huiles essentielles qui seraient notamment utiles dans la prévention de certaines infections pulmonaires. Donc, pourquoi pas?
Alors justement, pour savoir si consommer de l'ail régulièrement et puis en quelle quantité précisément pourrait nous protéger des virus en hiver, on a été posé la question au médecin nutritionniste Arnaud Cocolle. On l'écoute.
L'ail est excellent pour la santé parce que ça contient une substance qu'on appelle de l'allicine. L'allicine, c'est ça qui est pourvoyeur en fait d'un pouvoir antioxydant. Donc ça protège nos cellules et ça renforce notre immunité. Également, il y aurait des pouvoirs anti-cancer qui seraient avérés avec l'ail. Mais après, c'est vrai que c'est des doses qui sont quand même largement supérieures à ce qu'on a l'habitude de faire. Il faudrait environ 6 gousses à peu près par semaine.
6 gousses par semaine, vous, c'est 6 gousses par jour,
oui,
je crois.
Oui, exactement, mais faut y aller.
Ça fait quand même une sacrée dose, Jimmy. En plus, je crois qu'il faut vraiment, pour avoir tous ces bénéfices, le consommer cru. C'est comme ça que c'est le mieux.
Exactement, c'est valable aussi pour les herbes et les épices. Lorsqu'elles sont fraîches, c'est toujours plus préférable.
Mieux que séchées ou en poudre.
Exactement, séchées en poudre, notamment liées aux antioxydants qui sont là, qui sont quasiment 1,5 fois plus efficaces lorsqu'ils sont pris de façon naturelle que lorsqu'ils sont pris de façon transformée. Même chose, éviter la cuisson, ça détruit les petites particules, notamment une substance très intéressante dans l'ail qu'on appelle l'allicine, dont parlait le docteur Cocolle. Donc préférez la gousse d'ail le matin, le midi, le soir.
Crude, et tout ira bien. Dedans et ça va beaucoup mieux. Dans tous les cas, on n'oublie pas sa brosse à dents. Alors Jimmy, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Dora, 31 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed et une bonne année à vous. Comme tout le monde, je crois, j'ai repris des bonnes résolutions et je me suis remise au sport pour cette nouvelle année. Par contre, j'ai beaucoup de courbatures. Ça me fait vraiment très mal et je voulais savoir s'il y avait un moyen de les atténuer ou à faire en sorte qu'elles ne reviennent pas. Merci, bonne journée.
Alors Dimitri, d'abord on va juste faire un point rapide sur ce que sont les courbatures, un truc que vous ignorez complètement parce que vous ne faites jamais
exactement,
de sport.
Exactement, pas de sport, pas de courbatures.
C'est courbature. Quoi les courbatures?
C'est des douleurs musculaires qu'on a après un exercice physique qui serait finalement important ou inhabituel. Ça survient dans les 48 heures après un effort physique, ça peut durer 3 à 5 jours et c'est lié au fait que lorsqu'on a une activité physique intense, on a des micro-lésions au niveau des fibres musculaires qui sont détruites en quelque sorte et qui vont être cherchées à être reconstruites avec une réaction inflammatoire. Donc avoir des courbatures, ce serait une régénération des muscles qui serait finalement bénéfique.
Alors si c'est une sorte de réparation, c'est pas si mal finalement, mais est-ce qu'on peut quand même les éviter?
C'est difficile. Certains disent que faire des échauffements, d'y aller progressivement, des étirements, permettrait en tout cas de les, non pas les éviter, mais peut-être de les limiter. Donc faites 15-20 minutes, on va dire, à froid, avant de faire cet exercice physique intense.
Et très rapidement, pour les soulager, on fait quoi? Je crois qu'on boit beaucoup d'eau déjà.
Oui, on s'hydrate, un bain d'eau chaude peut aider. Et puis lorsqu'on a vraiment très mal, on peut éventuellement prendre un petit antalgique, un paracétamol, mais il faut surtout patienter et ne pas forcer sur la séance d'après. Vous risquez de vous blesser inutilement.
En tout cas, avoir repris le sport, c'est une très bonne initiative. Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Dora qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la grippe. Si elle vous tombe dessus, que faut-il faire? Il nous dira tout et puis on accueillera aussi notre invité du jour, Audrey Hakoun, spécialiste en psychologie positive, avec elle une promesse. En 2020, on dit tout stop à la pression. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée Audrey Hakoun qui va nous apprendre à nous libérer de la pression, que vous la subissiez chez vous, à la maison ou au travail, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez de la grippe, c'est parti. Je crois que vous en voyez de plus en plus en consultation. D'abord comment, alors on sait tous à peu près à quoi ça ressemble une grippe, mais comment elle se présente cette grippe?
Alors déjà il faut rappeler que la grippe c'est une infection virale à des virus du type influenza. Et quand je dis des virus, ça veut dire qu'il n'existe pas une grippe mais des grippes. Mmh. On a plusieurs types de virus, on a le type A qui est responsable de la vraie grippe sévère qui donne une semaine de symptômes. On a le type B qui donne qui donne un virus un peu moins importante. Et puis le type C qui donne simplement une petite rhinite avec une toux sans fièvre, rien de bien méchant.
Une grippette.
Une petite grippette, exactement, sans température. On sait que ça touche 2 à 8 millions de personnes chaque année lors de la période d'épidémie. Et puis c'est, on a un excès de mortalité attribuable à la grippe de 10 à 15 000 décès
chaque
par an.
Chaque fois, chaque année, chaque hiver, c'est comme ça.
Exactement,
hein.
Notamment chez des personnes plutôt fragiles.
Alors si on parle de la vraie grippe, elle donne une fièvre assez intense, avec des frissons, des courbatures, des maux de tête,
ouais,
c'est ça?
Oui, exactement. Et puis surtout, il y a une période d'abord d'incubation qui va de 1 à 3 jours et puis on est contagieux un jour avant l'apparition des symptômes.
C'est pour ça que je ne vous serre plus la main, moi.
Et
c'est
oui,
fini,
exactement,
là.
C'est ouais. Les mesures barrières.
Vous voyez, des grippés tous les matins, moi, je n'ai pas envie d'attraper.
Exactement. Et on est contagieux jusqu'à 6 jours après. Alors, les symptômes, vous l'avez dit, ils sont très intenses. Souvent, lorsque le médecin vous examine, il vous dit bon, vous n'avez pas grand-chose lorsqu'il vous regarde la gorge, il écoute les poumons, mais vous avez une température assez élevée, 39-40 degrés, en plateau, qui a du mal à baisser avec ce qu'on appelle le V de la grippe, c'est-à-dire au 3e-4e jour. Vous allez mieux, vous dites « Ah, je vais très bien », et puis vous replongez, c'est le V de la grippe, et donc la température repart de plus belle pour une durée d'environ une semaine. Vous avez le nez bouché ou le nez qui coule, mal à la gorge, vous toussez, ça fait mal, et puis on a des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, on a mal à la tête, on est cloué au lit. La grippe, c'est 42 fièvres durant une semaine. Attention, chez l'enfant de moins de 5 ans, c'est des symptômes plutôt digestifs, donc ils vont plutôt vomir et avoir parfois mal au ventre et de la température, et pas les symptômes qui ressemblent
au nez. Une sorte de grippe intestinale, en fait, c'est ça, mais c'est
exactement,
une grippe.
Exactement, mais c'est une grippe. Et puis, elle suit ensuite une phase de récupération avec une fatigue et une toux qui peut être prolongée durant plusieurs semaines.
Mais oui, moi, ça a duré un mois la dernière fois. Bon, c'était il y a 3 ans, maintenant je me fais vacciner, comme ça au moins j'évite. Alors, on la traite comment? Parce que vous avez dit donc c'est viral, il y a plusieurs virus. Si c'est viral, il n'y a pas d'antibiotiques.
Non, il n'y a pas d'antibiotiques. La seule chose, c'est que premièrement, c'est qu'il faut accepter l'arrêt de travail du médecin. Souvent, on dit que les gens veulent s'arrêter pour rien. Et au contraire, nous, on doit batailler pour dire aux gens attention, si vous allez au travail avec la grippe, vous allez la transmettre et l'épidémie va se propager de cette façon. Donc, on respecte l'arrêt maladie du médecin et c'est souvent 5 à 7 jours d'arrêt maladie. Deuxième chose, on prend un traitement symptomatique. Donc, on préfère le paracétamol, éviter les anti-inflammatoires qui sont parfois source de surinfection. On évite les corticoïdes, les sirops contre la toux, ça marche pas trop. Les fluidiformes bronchiques, de la même façon. Et parfois, lorsqu'il y a des surinfections bactériennes, c'est valable pour les personnes de plus de 65 ans, on prescrit des antibiotiques et cette surinfection survient entre le 5e et le 7e jour.
C'est ça, donc jamais au démarrage les antibiotiques.
Non, c'est souvent si une surinfection. Chez l'enfant, c'est plutôt l'otite Et chez la personne fragile, c'est la pneumopathie secondaire à la grippe. Attention, chez les personnes à risque de complications, qui a des pathologies cardiovasculaires, femmes enceintes, on peut proposer dans les 48 heures un traitement antiviral. Ce n'est pas un antibiotique, c'est le fameux Tamiflu que tout le monde connaît. Et celui-là pourrait réduire l'intensité des symptômes et la durée, avec parfois néanmoins des effets secondaires digestifs qu'il faut prévenir.
Mais s'ils sont pris, il est pris très tôt ce traitement. Alors Jimmy, moi je suis vacciné, mais est-ce qu'on peut l'éviter quand même?
C'est les mesures barrières dont on vous parlait tout à l'heure. On évite les bisous, c'est pas sympa, mais au moins un petit check, exactement, parce que se serrer la main aussi permet de propager beaucoup plus de virus que si on se faisait la bise. On jette les mouchoirs lorsqu'ils sont utilisés, on se lave bien les mains. Et puis lorsqu'on est malade et qu'on a des personnes fragiles autour de nous, on n'hésite pas à porter un masque pour éviter, car la grippe se transmet au travers de gouttelettes salivaires et donc elle va dans l'air et elle se propage de façon très importante.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour, c'est Audrey Hakoun. Elle est spécialiste en psychologie positive et auteure du livre « Je dis enfin stop à la pression » aux éditions Erol.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Audrey Hakoun.
Bonjour.
Alors avec vous aujourd'hui, on va débuter cette année 2020 en disant stop à la pression, c'est la promesse depuis le début de l'émission. Mais d'abord, expliquez-nous précisément, la pression c'est quoi finalement ?
La pression, c'est un état dans lequel on se retrouve qui s'apparente au stress. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est que le stress n'est pas une maladie en soi, c'est qu'en tant qu'être humain, on est obligé de s'adapter à son environnement, aux situations, à la réalité de notre quotidien. Quand on s'adapte bien, on est dans un état de stress et d'adaptation qu'on arrive à supporter, qui ne nous empêche pas de fonctionner. Là où ça coince, c'est quand on n'arrive plus à s'adapter pleinement et que là, pour des raisons majoritairement sociétale, d'éducation de notre histoire, on se rajoute du stress et notamment du stress de performance, parce que la pression c'est quoi ? C'est qu'on a toujours envie d'être au top, de pas décevoir, parce que au bout du compte, on a envie d'être aimé, on a envie d'être accepté, on ne veut pas décevoir, on veut donner une bonne image de soi et du coup on se retrouve à accepter dans notre vie, que ce soit dans notre vie privée ou au travail et dans notre relation avec les autres, des choses qui ne nous font pas du bien, qui nous fatiguent et qui nous épuisent. Jimmy ?
Est-ce qu'on la subit tous cette pression ? Est-ce qu'il y aurait des personnes qui seraient un peu plus à risque, notamment peut-être en fonction de leur métier ?
Alors, vous avez raison, en fonction de leur métier, oui, mais aussi plus en fonction d'une prédisposition, d'un état d'esprit. Souvent, ce qu'on remarque, et notamment au travail, on remarque que les gens qui subissent le plus la pression sont les gens justement qui sont les plus consciencieux. Ceux qui ont envie vraiment le plus de bien faire et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ceux qui en ont un petit peu rien à faire et sont en dilettante ne se mettent pas trop de pression et du coup subissent moins toutes les conséquences, on en parlera tout à l'heure, toutes les conséquences qui sont liées à cet état qui est un état chimique aussi, qui se met en branle dans le corps et qui va finalement petit à petit nous abîmer au niveau physiologique mais aussi au niveau psychique.
Est-ce qu'on la vit tous cette pression ou est-ce que c'est quelque chose d'adulte, juste pour les adultes ou est-ce que les enfants aussi en ont de la pression finalement ?
Alors cette pression, on la retrouve à tous les étages, enfants, adultes, elle commence très très tôt parce qu'elle nous vient de la société. On est dans une société qui prône, et de plus en plus, on l'a vu là dans les dernières années, le zéro défaut, la culture de la performance. Et on se rend compte, et moi je le vois en consultation au cabinet, des enfants qui très très jeunes, à peu près dès l'entrée du CP, dès que ça devient sérieux, qu'il y a des notes, des résultats, une obligation de résultats, des enfants qui subissent la pression qui vient de leurs parents, qui vient des enseignants, mais en fait qui vient du système en général.
On n'en a pas terminé, Audrey Hakoun, vous restez avec nous dans un instant. On passe donc aux conséquences de ce stress sur notre santé. Vous allez voir que cette pression qui nous écrase parfois à la maison ou au travail peut avoir des répercussions directes au niveau psychologique, vous l'avez dit, mais même au niveau physique. On vous dira tout.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, Audrey Hakoun, spécialiste en psychologie positive. Alors Audrey, grâce à vos bons conseils, on va tenter de tous balayer les sources de pression de notre vie en 2020. Mais d'abord, on peut identifier qu'on souffre, qu'on subit de la pression. Parce que parfois, est-ce que c'est obligatoire de s'en rendre compte ? Parfois, on est tellement la tête dans le guidon qu'en fait, on ne se rend même pas compte qu'on est sous pression, j'imagine.
C'est tout à fait ça. La majorité des gens ne se rendent pas du tout compte qu'ils subissent de la pression, qu'ils en souffrent en tout cas, puisque dans cette course à la performance, à l'envie de bien faire, à être toujours le bon petit soldat, à être plus dans le devoir que dans le plaisir, on pousse la machine et on se dit tant que ça tient, on n'interprète pas forcément les symptômes quand on en a, j'ai mal au ventre, tout ça, c'est normal, c'est parce que j'ai trop mangé ce week-end, j'ai mal au dos, c'est parce que j'ai porté des meubles lourds, et en fait on n'analyse pas la somme de symptômes qui arrivent à la lumière de tout ce stress qu'on fait subir à notre organisme, donc sur un plan physiologique, mais aussi sur le plan psychologique.
Mais on peut être sous pression, même quand on n'a pas de travail, par exemple, et qu'on est, je ne sais pas, mère au foyer, d'ailleurs que j'ai un travail assez prenant.
Mais en fait, mère au foyer, voilà, c'est un travail.
Bien sûr, je sais, j'en suis en partie le week-end, et je suis parfois plus fatiguée le week-end que la semaine. Alors, voilà, quand on n'a pas de vie professionnelle, en tout cas, c'est possible, hein,
oui,
complètement.
Oui, la pression n'est pas que professionnelle, la pression, elle est vraiment, la pression qu'on se met ou qu'on subit, elle est vraiment dans ce désir de toujours pousser au plus loin son organisme, ses performances, en rognant sur le sommeil, enfin sur les besoins primaires et les besoins vitaux, pour se maintenir au top. Et c'est encore pire chez les gens perfectionnistes. Et souvent, et c'est lié à son statut, souvent chez les mères qui sont au foyer, comme on leur renvoie pas forcément une image très positive au niveau de la société, de leur rôle, elles en font encore plus pour avoir ce sentiment d'être la bonne mère, qui fait ce qu'il faut faire pour toute sa famille.
Ouais.
Je le fais. Et en fait, elles s'épuisent dans ce rôle à être sur tous les fronts et à renier sur leur alimentation, sur leur sommeil, mais aussi à renier sur les sources de plaisir qui peuvent faire décompresser parce qu'elles ont peur de passer pour un être égoïste et sans cœur si elles commencent à prendre soin d'elles. Mais c'est valable pour tout le monde, ça, pas que pour les mères au foyer. Quand on commence à renier sur ses plaisirs ou à ne plus écouter ses besoins et ses envies pour satisfaire tout le monde, la société, sa famille,
son patron
ou son travail, c'est là que ça devient difficile.
Jimmy ?
Ce que vous décrivez, c'est la pression familiale lorsqu'on doit gérer les enfants, son conjoint ou sa conjointe, les activités, tout le tralala. C'est ce qu'on appelle finalement la charge mentale. C'est un terme qui est un peu à la mode.
Oui, alors c'est à la mode, mais ça correspond aussi à une réalité. Alors, la charge mentale, ça n'est pas que dans le faire. C'est justement d'avoir à penser à tout pour tout le monde. Et donc, plus on a d'enfants, plus il faut penser. Il faut penser à l'organisation familiale. D'autant plus quand on a aussi une activité. On parle de la deuxième journée, voire de la troisième journée.
C'est sûr.
Même. Maintenant, on en arrive à la troisième journée. Ou quand on a un agenda perpétuel dans la tête, où on se dit que si on ne pense pas à ça, 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 ça et ça, personne ne va y penser pour nous et que les choses ne seront pas faites. Mais en soi, que toutes les choses ne soient pas faites, ça n'est pas ça qui est très grave. Ce qui est très grave, c'est de penser qu'il faut que ça soit fait absolument, sinon la terre va s'écrouler. Et c'est comme au travail, les gens qui pensent que s'ils ne répondent pas dans la minute au mail, sachant qu'on est submergé d'informations et de mails à traiter, et que s'ils remettent un peu à plus tard parce qu'il y a trop de travail, ils culpabilisent en se disant que les conséquences vont être terribles. Or, la majorité du temps, les conséquences ne sont pas aussi terribles que ce qu'on les pense.
Par contre, des conséquences de la pression, elles existent, elles sont psychologiques.
Exactement.
et physiques.
Hein,
c'est ça.
Ouais.
D'un point de vue psychologique, c'est quoi ? Quels sont les signes qui doivent nous faire penser qu'on souffre, qu'on subit peut-être une pression excessive ?
D'un point de vue psychologique, les premiers stades, c'est vraiment d'abord les troubles cognitifs, le manque de concentration, les manques de mémoire. Tous les gens qui nous disent oui, j'ai l'impression de plus avoir de mémoire, j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est pas forcément un problème de mémoire, c'est un problème de surcharge cognitive. Et au niveau psychologique et affectif, c'est vraiment une perte d'estime de soi et de confiance en soi. Pourquoi ? Parce que quand on se met trop de pression ou quand on est dans un système trop pressurisant, on a toujours l'impression de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de nous ou de nos propres exigences. Donc ça engendre un sentiment de frustration à la fin de la journée, de se dire, la fameuse to-do list, de dire, je ne l'ai pas fait comme il fallait, j'aurais pu être meilleure. Et cette frustration, ça peut engendrer de la colère, mais c'est surtout que ça se retourne contre nous-mêmes, ou à la fin de la journée ou de la semaine ou du mois, on se dit, bah, finalement je suis un peu nulle, je ne suis pas à la hauteur.
Jimmy ?
Et donc, ça peut aussi avoir des conséquences, du coup, vous avez dit psychologiques et on va dire mentales, mais aussi physiquement, on peut avoir des conséquences de la pression ?
Oui, physiquement, donc les conséquences de la pression, c'est les conséquences qu'on retrouve liées au mauvais stress, on va dire. C'est-à-dire
des douleurs, carrément.
Alors, mais ça va, les douleurs X ou Y, mais souvent, c'est les douleurs. Ça va être les maux de tête, ça va être les problèmes digestifs, la tachycardie, l'hypersudation, enfin, tous les phénomènes, vous savez, qui sont liés. On a deux systèmes dans le corps, le système parasympathique, le système sympathique. Le système parasympathique est plutôt sympa, c'est celui quand on est détendu, donc on libère des hormones plutôt agréables comme les endorphines, la sérotonine, qui nous mettent dans un état de détente et de relaxation. et on se sent beaucoup mieux. En revanche, quand le cerveau identifie des situations qui peuvent être potentiellement à risque pour nous, qui sont hostiles, où on est fatigué, où on est pressurisé, là, ça met en branle toute une autre chimie avec d'autres hormones qui vont engendrer un dérèglement physiologique qu'on appelle le mauvais stress.
Et notamment... ça a été montré dans des études, c'est pas Audrey Acoun qui le dit, c'est scientifiquement prouvé.
Audrey Acoun, elle dit pas grand-chose, Audrey Acoun, elle répète ce qui vient des études scientifiques. Ouais. On parle beaucoup du cortisol, et certainement que dans cette émission, vous devez en parler souvent aussi, de l'effet du cortisol, qui est une des hormones du stress. On s'est aperçu que de trop fort taux, avoir une libération de cortisol, c'est OK, de trop fort taux de cortisol pendant trop longtemps, ça affaiblit le système, ça augmente le vieillissement et ça dérègle au niveau physique la machine. Donc on se sent moins bien, problème de sommeil, problème d'alimentation et au bout du compte, épuisement, fatigue, beaucoup de fatigue.
Audrey Acoun, on va continuer cette discussion dans quelques minutes, surtout vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, ça y est, on passe évidemment aux solutions. On vous l'a promis aujourd'hui, on vous dit tout ce qu'il faut faire ou mettre en place pour attaquer cette année 2020 dans la sérénité. Dans son rendez-vous aujourd'hui, on dit stop à la pression, mais c'est pas tout de le dire. Hein. On vous dit surtout comment, ce que ça veut dire en pratique. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Audrey Acoun, spécialiste en psychologie positive. Alors il y a quelques minutes Audrey, vous nous avez parlé des conséquences de la pression, ces conséquences qu'on peut avoir d'un point de vue physique et psychologique. Et donc maintenant on va quand même passer aux solutions parce que bon, on a compris que ça pouvait faire très très mal cette pression. Pour en finir avec la pression, dans votre livre qui porte le même nom, vous dites que ça se fait en 5 étapes. D'abord le point numéro 1, selon vous, c'est s'affirmer. Mais s'affirmer, ça veut dire quoi dans la vraie vie ?
S'affirmer, ça veut dire d'oser poser des limites, fixer des limites et de ne plus accepter des situations qui nous font du mal. Pour des raisons, chacun a ses raisons, on a tous des bonnes raisons d'accepter les choses.
Par exemple.
Mais d'accepter, par exemple, d'être envahi par une mère ou une belle-mère qui est tout le temps en train de nous faire des reproches, mais on l'accepte parce qu'elle est bien gentille, elle nous garde les enfants le mercredi. Et donc
s'affirmer, ça veut dire qu'on arrête d'accepter la belle-mère chiante.
Ça veut peut-être dire d'arrêter de dire voilà, quand vous me dites ça, ça ne me fait pas du bien et je vous demande d'arrêter.
Et je m'en fiche,
et
je peux regarder mes enfants.
Si la contrepartie, c'est que la belle-mère ou la mère ou X, Y ou Z ne veut plus être en relation ou ne veut plus rendre de service, eh ben on se débrouille autrement.
On prend des babysitters.
Voilà. En fait, c'est aussi être clair avec soi-même. Mais ce qui est important, c'est de prendre la responsabilité de son bien-être. C'est ce que j'explique tout le temps. On ne peut pas, on est responsable, on a des enfants, on a des collègues, on est en interaction. On ne peut pas vouloir le bien des autres si déjà on ne prend pas la responsabilité de son propre bien-être. C'est exactement comme dans les avions, quand il y a les masques qui tombent, les masques à oxygène, on dit, même si vous êtes avec un enfant, vous vous équipez d'abord avant d'équiper l'enfant. Quelqu'un qui est en burn-out, quelqu'un qui est fatigué tout le temps, ne peut pas être utile aux autres de toute façon. Donc d'abord, ça n'est pas égoïste que d'arrêter d'accepter des choses qui ne nous font pas du bien.
Jimmy, je vous sens à fond là. Alors, c'est quoi s'affirmer, Jimmy ? Allez-y.
Non, mais ce que vous dites, par exemple, ne pas accepter d'aller dîner chez la belle-mère. Mais du coup, c'est aller au-delà de devant des conflits, en fait. C'est d'accepter d'être rentré en guerre avec des personnes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup parfois, plutôt que d'accepter et puis que les choses passent naturellement ?
Vous avez entièrement raison, c'est une question d'être au clair avec soi-même et d'arbitrage. De dire, est-ce que le conflit engendré va peut-être m'engendrer plus de pression que le fait finalement d'y aller parce que ça ne me coûte pas si cher que ça ? Au travail, c'est la même chose. Au travail, on peut aussi avoir une manière élégante, sans aller au conflit, de ne pas accepter une surcharge de travail.
Mais comment ? Parce que ça, je le vois régulièrement, des gens qui sont débordés par le travail, la hiérarchie qui met une pression incroyable.
Oui.
Même dans des postes, on a pu se dire, bon, ils sont pas pilotes d'avion, la responsabilité semble limitée, et pourtant ils ont une pression incroyable. Comment eux peuvent dire non alors qu'ils ont une contrainte ? Fais ce travail en temps et en heure, sinon il y a des conséquences.
Alors oui, mais sauf qu'il y a un petit truc à dire, c'est de dire moi j'aime bien le travail bien fait. Je suis très investie dans mon rôle et je suis très investie pour cette entreprise. Et comme j'aime le travail bien fait, je peux pas faire n'importe quoi. Et si j'accepte ce dossier là maintenant tout de suite, je sais que je vais pas bien le faire ou je sais qu'il y a un risque en
difficile
entreprise.
Difficile pour un employeur de dire que ce soit derrière.
Oui, parce que en entreprise, qu'on oublie beaucoup, c'est la notion de facteur humain et de risque. risques. De risques si... alors, il y a des métiers qui n'ont pas forcément de risques humains. Mais il y a des métiers, moi je travaille beaucoup dans les établissements de santé, il y a un vrai risque quand on doit traiter des patients. Si soi-même on est crevé, il y a un risque d'erreur de prescription. Il y a des risques. Donc rappelez ça à l'employeur en disant, c'est pas que je veux pas... Par principe, c'est que je veux bien faire mon travail. Laissez-moi bien faire mon travail. Et dès que ça sera possible, bien évidemment que je les prends vos dossiers.
Et à la maison, on s'affirme comment ? C'est en disant par exemple à son mari... C'est décidé, j'arrête de ramasser ton linge à côté de la panière. Je sens pas le vécu, hein, c'est pas
par exemple, Mélanie.
Mais ça met un peu la pression tous les matins quand on voit cette pile de linge sale. C'est quoi ? C'est dire oui. Je fais la grève, non, mais... je m'affirme, je fais
alors,
la grève.
C'est... Mais c'est pas non. La grève pour faire la grève. Encore une fois, faire la grève pour faire la grève, c'est complètement débile.
D'accord.
Non. En revanche, de dire, voilà, de poser une règle et de dire, moi, il n'y a pas de problème. Apparemment, je suis la préposée à faire les lessives. Je ne laverai que ce qui est mis au linge sale. Si la règle est posée.
Voilà, ce qui est à côté de la panière, parce que c'est pas loin, hein, c'est juste
non,
à côté.
Eh bien, je ne
ça
le mets
ne
pas.
Pas
et, souvent, et souvent, quand on me dit ça, on me dit oui, mais vous vous rendez compte ? Alors, ça veut dire que si je ramasse pas le caleçon de mon mari, la nounou va penser qu'on est des gros dégoûtants.
Exactement.
Voilà. Je dis, eh ben, dans ce cas-là, vous le dites à la nounou de dire écoutez, moi, la règle maintenant, c'est que je ne lave que ce qui est.
Je suis désolée que vous ayez à voir.
Au linge sale. Chacun prend ses responsabilités. Mon mari ou mes enfants sont grands. Je parle pas des tout petits enfants, mais
sûr.
Même les tout petits enfants, on peut leur mettre des règles. C'est mettre aussi plus de cadres. Et plus de règles. Plus il y a de cadres sans être autoritaire et de faire de l'autoritarisme, mais plus il y a un cadre rassurant avec des règles établies, plus c'est rassurant pour tout le monde et moins on aura de pression parce que ça va être beaucoup plus fluide. On applique la règle.
Très bien, on va appliquer la règle. Alors, étape numéro 2 pour se libérer de la pression, c'est d'accepter d'être imparfait. Donc là, c'est pareil, j'arrête d'être parfaite, ça va aussi avec le panier à linge sale.
Oui,
je m'en fiche,
que...
ma salle de bain sera dégueulasse.
Sauf que dire ça et dire on accepte d'être imparfait, ce n'est pas la carte blanche non plus pour ne plus rien faire,
pour
se laisser
enfant,
aller,
dire, je fais plus mes devoirs.
Complètement négliger. Non, mais c'est pour lutter contre le perfectionnisme. Moi, je rencontre beaucoup trop de gens qui sont même pas dans la question d'être parfait ou imparfait, qui sont dans du perfectionnisme et qui poussent la machine, mais vraiment au maximum, y compris sur leur santé physique, pour être au top tout le temps. Et moi, ce que je leur dis, mais c'est pourquoi faire ? Pourquoi ? Et c'est cette question-là. Qu'est-ce qui fait ? Ça demande un travail sur soi. Qu'est-ce qui fait que je cherche toujours à être au top du top et que du coup, je ne me détends jamais ? Je vois trop de gens qui ne profitent pas, qui font des dîners, par exemple, et qui veulent tellement que tout soit parfait qu'ils ne profitent même pas de la conversation de leurs convives. Oui. C'est dommage. Vaut mieux un plat de spaghettis bien décoré avec trois trucs et de rester à table avec ses convives plutôt que de faire brillant
de camp. Des spaghettis.
Mais dites ça à ma femme parce qu'effectivement, elle est dans ce cadre-là. Elle fait tout. Elle ne profite pas du repas. Mais pour que
mais
tout
c'est
soit
dommage.
Parfait, exactement. Et ta preuve, vous dites penser et organiser son travail autrement. Comment ça marche ?
Penser et organiser son travail autrement, c'est déjà de comprendre l'impact de la surstimulation cognitive. Il faut savoir qu'un employé est dérangé en moyenne toutes les 7 secondes au travail, que ce soit par des mails, des notifications, des demandes. On ne peut pas se concentrer et mobiliser son cortex. Le cortex, c'est l'ordinateur de bord, c'est celui qui nous permet de nous concentrer, de réfléchir, d'analyser les choses quand on est dérangé tout le temps, parce que ça crée une instabilité, une insécurité d'être dérangé. C'est une intrusion dans notre monde intérieur. Ça crée des problèmes de concentration, donc moins de performance. Et donc, c'est un cercle vicieux. Plus on essaye de répondre à toutes les demandes, moins on écoute son corps aussi, mettre des réunions importantes juste avant de déjeuner. C'est une hérésie. C'est
tout
une
à fait
hérésie
d'accord
parce que
vous.
Physiologiquement, on est déjà en hypoglycémie. Un cerveau qui est en hypoglycémie, c'est un cerveau qui fonctionne moins bien. Faire des sessions de 2 heures de travail intensif, hein, je parle du travail intensif, pendant 2 heures, pour le cerveau, d'un point de vue neurologique, c'est une hérésie. Il faudrait faire des tranches de 20 minutes. Être le drame des open space, ça peut être sympa, mais ça crée aussi des soucis de bruit.
Quand j'ai
donc
préparé l'émission,
sont...
je travaille en open space,
oui.
Je vous ai appelé, je vous ai dit, je vais me mettre dans une cabine de maquillage
les
et je
gens,
vous appelle, parce que sinon on ne peut pas passer un coup de fil.
Les gens qui sont soumis au bruit toute la journée, ça met le cerveau en situation d'hypervigilance et de fatigue cognitive. on est moins performant. Il faut pouvoir être capable de dire, là, moi, j'ai besoin de travailler sur quelque chose. Je dois m'isoler un instant. C'est pas que je suis pas club et c'est pas que j'ai pas envie de voir vos têtes. C'est que j'ai besoin de m'isoler un petit peu. Il y a des endroits pour s'isoler. Penser et organiser son travail autrement, c'est passer aussi d'utiliser des méthodes un peu plus agiles comme la pensée visuelle, réorganiser les réunions, la réunion descendante avec des PowerPoint où c'est des romans écrits dessus et pendant 2 heures, on lit le PowerPoint.
Et c'est quoi la bonne réunion alors ?
C'est pas des choses beaucoup plus interactives, beaucoup plus collaboratives. Il y a plein de méthodes très modernes.
Des réunions debout, par exemple.
Mais par exemple, c'est de changer les lieux de réunion. Vous vous rendez compte, pour le cerveau, la réunion du lundi matin ou du vendredi après-midi, toujours au même endroit, avec les mêmes têtes et dans un truc très passif où on est assis, très descendant, soit on s'endort, soit on s'ennuie, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est très productif.
Pas créatif, en
c'est
tout
pas
cas.
Très créatif. Recevoir des comptes rendus qui sont de la taille de romans, personne ne les lit, donc ce qui fait que la réunion d'après, c'est pour ça qu'on a la réunion en France, parce qu'en fait, on ne capitalise pas sur l'information, sur le traitement de l'information.
Jimmy ?
Et du coup, comment appliquer, par exemple, de la psychologie positive au travail ? Quelle petite méthode on pourrait avoir pour aller un petit peu mieux ?
Alors, il y a des entreprises qui le font et il y a des recherches scientifiques qui l'ont prouvé. C'est de réinstaurer la circulation de la reconnaissance et de la gratitude. De dire merci à ses collègues. Merci pour des petits détails, pour des petites choses du quotidien.
Merci Jimmy d'être là tous les jours.
Merci pour le sourire que tu me fais le matin qui me donne la pêche. De dire merci à son patron aussi. De dire ça marche dans tous les sens, la reconnaissance. Aujourd'hui, on souffre beaucoup au travail.
Vous pouvez me dire merci, Jimmy, parce que moi, je suis votre patron, je crois. Non,
c'est pas vrai. Ouais, je vous remercie, Mélanie. Oui, non, mais on passe un très bon moment. Non, mais c'est vrai, le fait de verbaliser, je pense que c'est important.
Verbaliser, parce qu'on parle, parce que vous savez qu'on est dans une société, et notamment en France, où on pointe du doigt toujours ce qui ne va pas. Les défaillances, et on est toujours dans de la remédiation. Et on en oublie de mettre le doigt et de faire ressortir les choses qui vont bien, parce qu'on part du principe que c'est normal et que c'est dû. Mais en fait, ça a un pouvoir très puissant sur le cerveau.
La gratitude, hein, c'est ça.
La gratitude. Prendre conscience dans sa journée de travail des choses. C'est ma copine Florence Herman-Schreiber qui en parle dans 3 kiffs par jour, c'est
et
ça.
Et qui sera chez Mathieu Noël juste après.
Mais oui, mais c'est de prendre conscience des 3 choses minimum qui ont été chouettes dans notre journée, mais c'est aussi de le partager avec ses collègues. Il y a des entreprises qui appliquent les challenges de gentillesse et d'aider les autres. On s'est rendu compte que au sein d'un collectif de travail, dès qu'on fait des challenges pour aller aider une cause, que ça soit associative, des challenges, il y en a qui font des challenges de courir ensemble ou de marcher ensemble,
c'est vrai.
De compter les pas, d'aller s'entraider, ou d'aller aider une cause, ça augmente le niveau de bien-être, ça augmente la cohésion et ça augmente surtout les performances cognitives. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a un vrai lien entre les liens qu'on peut créer et le bonheur qu'on peut faire circuler et les performances cognitives. Donc, plus de productivité pour l'entreprise.
Et
c'est tout bénef.
Tout le monde est content, du coup, en 2020, comme ça, plus de pression au travail. Alors, l'étape numéro 4 dont vous parlez pour lâcher cette pression, pour lâcher du lest, c'est d'être authentique et de laisser son empreinte. Alors ça veut dire quoi ?
Être authentique, c'est se montrer vraiment tel qu'on est, de ne pas avoir peur, de montrer ses faiblesses, d'accepter ça. Ça rejoint être imparfait, mais on est tout le temps et très souvent dans de la représentation. On veut toujours donner la meilleure image de soi et c'est surtout qu'on est tout le temps dans de la comparaison. Et alors le phénomène réseaux sociaux amplifie ça, puisqu'on a l'impression que la vie des autres, vu qu'on met tous en scène notre vie sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on a toujours l'impression que les autres sont plus beaux, sont plus minces, ont des vacances fabuleuses, s'entendent super bien avec leurs collègues et leurs enfants et jettent des feuilles d'automne comme ça en avec leurs gosses, alors que vous êtes entre les couches et les
alors
trucs et les machins et en train de vous prendre la tête sur les doigts et tout ça, et on se dit mais comment fait-elle cette femme qui est extraordinaire. Et en fait, si tout le monde, si chacun se montrait de manière un peu plus authentique, avec de la dérision, on se rend compte finalement, moi la plus grande, personnellement la plus grande leçon que j'ai eue dans ma vie, et je l'ai eue à plusieurs reprises, c'est les moments où j'allais pas bien et où j'étais même vraiment en vrac, de voir, moi qui étais vue comme Wonder Woman, de voir à quel point les gens qui comptent se rapprochaient de moi et avaient envie de m'aider et finalement continuer à m'aimer,
même si
j'étais vraiment en vrac.
Jimmy ?
Et on pardonne plus les erreurs lorsqu'on est authentique ? On est plus indulgent avec les gens qui finalement
qui sont authentiques ?
Ouais.
Bien sûr, parce que ça crée, il y a une question d'effet miroir, où si on est déjà un peu plus indulgent avec soi-même, moi j'adore cette pratique en psychologie positive, on appelle ça l'autocompassion. Si déjà on se qu'ils étaient un peu plus en amis. On donne envie aux autres de faire de même et du coup, on devient plus indulgent ensemble. C'est ce que je dis toujours, je dis, vous imaginez, vous faites un dîner, vous avez des amis qui viennent à la maison et il y a votre copine Gisèle qui renverse son verre de vin sur la nappe. Vous n'allez pas la traiter de tous les noms et de lui dire « mais qu'est-ce que t'es débile ?» Vous allez dire « non Gisèle, t'inquiète pas, c'est pas grave, je vais mettre du gros sel. » Alors que si c'est votre enfant ou votre conjoint qui le fait et c'est même pas du vin, ça va être un verre d'eau, vous allez dire « oui, c'est toujours la même chose. » Et donc on n'est pas assez gentil avec soi-même et on n'est pas assez gentil avec ceux qui nous sont les plus proches. Parce que on pense que c'est une continuité de nous-mêmes. Donc si on n'est pas très gentil avec nous-mêmes, ben, on n'est pas très gentil avec les autres.
Merci beaucoup Audrey Hakoun d'être venue sur notre plateau.
Merci
nous donner
à vous.
Tous vos bons conseils pour attaquer 2020 sans pression. Dans l'équipe de Sans Rendez-vous, en tout cas, on a tout bien noté. J'ai vu Jimmy, il a fait des listes. Hein. C'est bon, je ne me mets plus la pression. Je fais des spaghettis, je ramasse mon linge sale, tout ça, c'est parfait.
Plus de repassage, je ne jette plus les poubelles.
C'est ça. Je rappelle le titre de votre livre. Je dis enfin stop à la pression chez Erol Éditions. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique « Les bobos du quotidien ». Et aujourd'hui, on s'est intéressé à l'intérêt ou pas des jus de fruits pour notre santé. Sont-ils une alternative aux fruits entiers? Nous font-ils réellement du bien? On fera le point. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de l'intérêt des jus de fruits pour notre santé. Savez-vous s'ils sont bons ou pas, d'autant qu'ils le prétendent en tout cas. Peuvent-ils remplacer les fruits entiers? Et puis comment les choisissez-vous? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
Généralement, je bois du jus de fruits le matin, du jus d'orange que je presse moi-même.
Fraise. Framboise, orange, pêche, multifruits, quoi, enfin tout ça.
Citron pressé, mais jamais de jus de fruits, et encore moins des jus de fruits qu'on trouve dans le commerce.
Bah, ça apporte des vitamines.
Peut-être deux fois par jour, une fois le matin, une fois quand je rentre du travail.
J'en bois jamais parce qu'il y a une idée reçue comme quoi on dit que les jus de fruits c'est un apport ultra vitaminé, que c'est hyper diète, etc. Alors que pas du tout, dès lors que tu presses par exemple de l'orange, ça ressort tout le sucre et tu n'as plus du tout les apports nutritionnels d'une orange.
J'entends de dire que c'était pas forcément bon pour la santé parce que c'était uniquement le sucre du fruit, il y avait aucune fibre.
Et... énormément de sucre, donc je regarde chaque fois quand je prends un jus de fruit que ça dépasse pas les 10 grammes par litre, il me semble.
Je trouve qu'il y a beaucoup plus de vitamines si on le fait nous-mêmes.
C'est mieux de manger une orange plutôt que la boire.
Alors, les jus de fruits, Jimmy, un vaste sujet. Hein. Savez-vous qu'on en consomme d'ailleurs énormément, une très grande quantité en France. Pour vous donner une idée, j'ai été chercher un petit chiffre quand même pour vous impressionner, parce que vous sortez toujours des chiffres pour faire le mec qui a fait médecine, qui l'a vraiment fait, mais moi aussi j'ai des chiffres. 51 litres de jus de fruits sont bu chaque seconde, c'est énorme. Vous devez déjà boire la moitié à vous tout seul.
Oui,
non,
oui, oui. D'où cette bedaine, mais ça. Voilà, peu importe.
Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, Jimmy, à en consommer d'un point de vue médical, enfin
pour
la santé?
Non, aucun. Ah, on pourrait se passer toute la vie de jus de fruits, il n'y a aucun problème. Au contraire, le fait de prendre les jus sous forme de fruits et de ne pas mastiquer, eh ben, ça entraîne une prise de poids car le cerveau ne comprend pas qu'il y a du sucre alors qu'il n'a pas mangé, il n'a que du liquide. Et le liquide, normalement, c'est l'eau. Donc, on n'a pas besoin de jus de fruits. Et puis, si on veut avoir ce qu'on appelle les minéraux, les vitamines, la vitamine C, eh ben, ils sont un peu plus présents lorsqu'ils sont pris dans des fruits entiers. Donc, c'est soit aussi bien, voire mieux en termes de fruits. Donc, on sait que c'est pratique parfois. On a des enfants, on n'a pas le temps.
Bah oui.
On leur donne la petite briquette de jus. Mais finalement, il faut les limiter car ils ne sont pas très riches en vitamines. Et puis en plus, on verra après, c'est parfois des bons caloriques.
Alors, si on ne mange pas du tout de fruits, bon, j'ai bien compris que c'était mieux de manger des fruits, mais est-ce que ça peut les remplacer quand même en quelque sorte? Non,
non, alors si vraiment, vraiment vous êtes embêté, on peut éventuellement les prendre sous forme de compote ou certaines purées. Ça
c'est
peut
un
être,
peu
ça
mieux
peut
que
compenser.
Le jus en fait. Ouais.
Et puis si on n'a pas le temps vraiment le matin, eh ben, on peut au moins prendre des oranges au petit déjeuner, essayer de les presser nous-mêmes ou encore les jus de fruits qui sont pressés directement dans certains supermarchés.
Ah, on en voit partout maintenant.
Exactement.
Des machines
donc
pour
ceux-là,
ça.
Ils sont un peu plus riches et donc quitte à choisir, mieux vaut prendre ceux-là parce qu'ils sont un peu plus riches en vitamines et le but du jeu justement, c'est d'avoir le maximum de vitamines lorsqu'on prend des fruits et des légumes.
Alors comme on a dit qu'on parlait de jus de fruits, on va quand même en parler. Si on doit en acheter, est-ce que je sais pas comment on choisit le jus?
Si on peut bio, c'est toujours mieux. Mm-hmm. C'est sûr que ça coûte un peu plus cher. Mais ce qu'il faut surveiller, c'est surtout la teneur en sucre.
Et oui,
alors
c'est
qu'on
le
pense
problème.
Que et on dit jus de fruits, on pense que fruits c'est naturel, c'est sympa, mais on oublie parfois que c'est des bombes caloriques et que certains comportent entre 11 grammes et 16 grammes de sucre pour 100 grammes de jus.
Oui, c'est énorme.
C'est-à-dire presque autant certaines que certains sodas. Donc surveiller l'étiquette au dos pour voir l'apport nutritionnel. Et donc ceux qui sont notamment transformés ou enrichis avec des mix de plein de trucs, en règle générale, ils sont pas très bons.
Donc le plus simple possible. Une fois qu'on a tout ça en main, qu'on a bien choisi son jus de fruits, on peut en donner à toute la famille ?
Jamais avant un an. Les enfants,
ça, c'est la
on évite, ouais, parce que c'est l'Académie américaine de pédiatrie qui a fait cette recommandation formelle. Aucun jus de fruits avant un an chez l'enfant, ça sert à rien. Et puis au contraire, vous allez l'habituer à avoir du sucre et que ses petites papilles vont être sensibles au sucre et avoir l'habitude d'exactement être accro. Ils vont se dire, mais pourquoi vais-je prendre du salé puisque le sucré, c'est naturel, c'est meilleur. Donc attention, on évite ça, notamment chez les tout-petits. Pas besoin de les substituer au lait maternel, c'est tout ce qu'il faut, ou le lait en poudre. Donc, aucune urgence à introduire le sucre chez les enfants.
Et très rapidement, après un an, là, on peut en donner à tous les enfants, c'est toujours mieux qu'un soda quand même.
C'est mieux qu'un soda, mais pas à volonté. Alors, attention, entre 2 et 18 ans, il faut vraiment y aller mollo, avec parcimonie. Jusqu'à 6 ans, il faut que ce soit très limité, pas tous les jours. Si on en donne, c'est un demi-verre ou un verre grand maximum. Et à partir de 7 ans, encore une fois, on fait attention, 25 centilitres par jour au maximum.
Un verre max.
Un verre et un risque de surpoids et d'obésité. Et attention aux caries, c'est du sucre, donc prudence.
Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils. Et on l'aura compris, le mieux c'est quand même de manger des fruits. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après c'est la chronique sexo aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc. On va parler des problèmes d'éjaculation, qu'elles soient trop précoces ou même trop tardives, y a-t-il des moyens de corriger ça? Catherine nous répondra, mais d'abord on écoute de la musique. C'est le titre Baby D de Bad Bad Thing du chanteur Chris Isaac.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, vous l'avez peut-être entendu arriver, c'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour
oui,
Catherine.
Bonjour, elle se faisait déjà bavarde,
pendant le disque. Alors Catherine...
Elle est trop contente.
Voilà, trop contente d'être là. Ben, ça tombe bien, on a une question pour vous, une question que nous a posée Jérôme Arnaud sur le répondeur d'Europe 1. On écoute sa question.
Je voudrais poser la question suivante. Je peux souffrir de problèmes d'éjaculation précoce ou d'éjaculation tardive en fonction des situations et j'aimerais savoir si ça peut se corriger, de quelle manière. Merci.
Alors Catherine, d'abord, est-ce que c'est fréquent les hommes comme ça qui ont des troubles d'éjaculation, mais variés, c'est-à-dire pas toujours les mêmes? Ils parlent d'éjaculation précoce ou alors tardive en fonction des... Voilà, enfin je sais pas, ça c'est fréquent comme problème?
Oui, ceci étant, en général, on est plutôt abonné à l'un ou abonné à l'autre.
C'est ce que je pensais, oui.
Maintenant, effectivement, il peut y avoir les deux. De toute façon, ça pose toujours la même question. C'est de savoir cette capacité à se sentir tranquille dans sa sexualité et accepter et être bien dans ce qui vient. Or, c'est ou ça vient pas assez ou ça vient trop vite. Donc, c'est une sorte d'insatisfaction permanente dans l'idée qu'il se fait de sa sexualité.
Mais c'est pas bizarre quand même d'avoir les deux, parce qu'on imagine... J'imagine que celui qui est précoce, il est toujours éjaculateur précoce, parce que je ne sais pas pourquoi. Vous allez nous expliquer d'ailleurs quels sont, finalement, quel est le cheminement de tout ça. Mais moi, je pensais qu'on était vraiment voilà, éjaculateur précoce et puis voilà. Mais les deux, je trouve ça curieux quand même.
Non, parce qu'en fait, considérer qu'on devrait être éjaculateur précoce et donc que éjaculateur précoce, ce serait considérer que l'histoire n'est qu'une histoire mécanique. Et que donc, si la mécanique est organisée d'une certaine manière, elle n'est pas organisée d'autre manière. Mmh. Or, l'éjaculation n'est pas qu'une histoire mécanique, elle est aussi une histoire psychologique, une histoire émotionnelle, et selon la situation émotionnelle de la rencontre, eh bien ça ne sollicite pas la même chose, et du coup la réactivité à ce qui se joue n'est pas la même.
Jimmy ?
Si on parle de l'éjaculation précoce, est-ce que ça touche plus les jeunes hommes qui découvrent la sexualité et finalement en vieillissant on est plus tranquille, ou finalement on peut être autant touché à 20 ans qu'à 50 ans ?
Alors on l'est autant à un âge qu'à un autre, mais en effet il y a une plus grande proportion des jeunes hommes, puisque naturellement l'homme est fait pour être éjaculateur rapide, puisque monsieur de Cro-Magnon, je pars bien sûr un petit peu loin, le but était de féconder et donc et de ne pas se risquer de se faire manger par une bête fauve ou tué par le chef de la tribu d'à côté. Donc le but était d'être droit au but pour ce qui était le projet de la sexualité. Sauf que depuis, évidemment, le temps ayant passé, nos cerveaux s'étant développés, nous avons développé d'autres aptitudes.
Pas on fait l'amour sans se faire manger par un ours.
On fait l'amour sans se faire manger par un ours. A priori, le voisin n'est pas, ne vient pas pour vous assassiner dans votre dos, vous voulez votre
donc
compagne.
On a le temps.
On a un peu le temps. Et puis surtout, on a élaboré un autre intérêt à la sexualité que la seule fécondation. Donc de fait, nous avons créé un espace pour pouvoir se faire jouir l'un et l'autre. Du coup, on a étiré le temps. Mais sinon, naturellement, l'homme est programmé pour éjaculer rapidement. Donc les jeunes hommes, a fortiori, sont ceux qui sont plus tentés d'éjaculer rapidement.
Ils se maîtrisent moins, parce que c'est le début.
Alors d'abord, ils sont, parce que leur programmation va plutôt dans ce sens, et en plus, ils sont dans l'anxiété. L'anxiété d'une performance, en général, entraîne exactement l'inverse de ce que l'on cherche en général. Ils sont dans l'angoisse de faire du mal, ou dans l'angoisse de mal faire. Et donc, du coup, cette angoisse fait que tout d'un coup, tout s'agite, tout part un peu en même temps. Ils sont en train d'embrasser en même temps, en train de caresser en même temps, en train de pénétrer, ça part un peu tout en braque. Et c'est assez logique. Voilà, il y a quelque chose comme un jeune danseur. Dans un premier temps, il vous marche sur les pieds, puis après, petit à petit, il se donne de l'espace.
Alors ça, là, ça a l'air d'être assez psychologique, ce que vous racontez. Là, je ne sais pas quelle est la situation de cet auditeur, donc Jérôme Arnaud qui nous a laissé la question. Mais pour lui, donc, il dit qu'il souffre des deux. Je ne sais pas quel âge il a. Il a une voix, on dirait, à peu près une trentaine d'années, peut-être. Ça peut être causé par quoi, le fait de souffrir des deux, finalement?
Alors, déjà, ce qui est compliqué, c'est qu'on a évidemment, tous les cas sont des cas différents. Donc là, évidemment, je vais un petit peu essayer de faire un truc un peu large pour essayer de comprendre ce qui peut se jouer. D'abord, ça peut être selon dans quel état de fatigue et quelle consommation. Parce que, par exemple, l'alcool peut entraîner chez certains hommes une éjaculation plus rapide, chez d'autres, une impossibilité d'éjaculer. Donc, du coup, ça devient poussif, long et très désagréable, finalement, et pour l'homme et pour la femme qui subissent ce temps qui pourrait apparaître intéressant puisque long, mais en fait, où il ne se passe
rien. Déjà, supprimer l'alcool, parfois, ça peut aider.
Voilà, l'alcool n'est pas le meilleur conseiller et la meilleure aide pour une sexualité tranquille, paisible et pour une jouissance de part et d'autre d'ailleurs. Donc ça peut être une chose si c'est de l'alcool. Ça peut être après une histoire de relation. Avec quel type de personne ça se fait rapidement et avec quel type de personne ça ne se fait pas.
Oui, parce qu'il a parlé de situations en plus, hein, différentes.
Exactement. Ouais. Donc ce peut être parce que dans un cas il y a une situation amoureuse, dans un autre cas il n'y a pas de situation amoureuse. Donc parce que vous comprenez bien que éjaculer c'est donner quelque chose à l'autre. Ou éjaculer rapidement c'est frustrer parce que je ne lui donne pas de temps. Donc ça raconte aussi la qualité de la relation et les enjeux relationnels avec l'un avec l'autre. Et puis après, il y a une question aussi d'énergie. Et souvent, alors là, je vais parler plus particulièrement dans le cadre de l'éjaculation rapide. Souvent, les hommes, quand ils veulent retarder leur éjaculation, vont avoir la mécanique naturelle de contracter leurs muscles et notamment leur périnée, comme on fait le stop pipi. Sauf qu'en contractant ça, ils indiquent au corps la venue de l'éjaculation, ce qui fait que plus ils sont dans une tension physique, musculaire importante, plus leur éjaculation leur échappe. Et donc, c'est dans une décontraction tout en étant physiquement actif qu'il leur faut essayer de récupérer une maîtrise d'eux-mêmes. Je suis allée très vite, mais nous en reparlerons.
On reviendra
parce que c'est
sur les traitements, bien sûr.
Sujet.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. On vous retrouve, bien sûr, demain avec grand plaisir. Demain, notre grand dossier sera consacré aux troubles bipolaires, une maladie qu'on connaît de mieux en mieux et surtout dont la prise en charge s'est nettement améliorée.